Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast. La soirée avec notre envoyé spécial en direct de New York City, Big Rusty.
Salut tout le monde, et puis voilà, c'est Guillaume.
Alors comment ça se passe là, cette Fight Week?
Ça se passe très bien.
Donc Rust, petite question, comment se sent Nassourdine?
Et alors, ce que je peux dire avec certitude, c'est qu'il va très bien, et que tout va très bien. Le poids était magnifiquement géré, vraiment. Et bah, pour vous dire à quel point il est tranquille, relax, hier, il était encore en train de regarder Peaky Blinders. En mangeant des trucs qui lui font plaisir, et tout va bien. Et voilà, ça fait vraiment plaisir parce que quoi qu'il se passe, on aura un Nassour en grande forme.
Ah ouais, d'accord. Donc la hype est là, mais aux États-Unis, donc en France, là on commence, je pense, j'ai l'impression que le grand public est en train de se dire, il se passe peut-être quelque chose avec ce combat. Les comptes UFC sont en train de dire, bah, le gagnant va, tu sais, faire un petit peu un gros impact dans cette catégorie middleweight. Est-ce que toi, tu le vois aussi là, aux États-Unis, où ça reste quand même, bah, le fait que la carte soit quand même très dense, pour l'instant, bah, ça reste assez tranquille pour Nassourdine.
Ça, honnêtement, ça commence. Tu sais que dans la rue, il a été reconnu plusieurs fois déjà. C'est, ouais. Non, ça, honnêtement, je pense que ça commence. Et puis surtout, c'est le fait que, ben, c'est quand même un combat entre deux gars qui ont, respectivement 23 et 25 ans. Alors certes, ils sont pas dans les mêmes dynamiques puisque, ben, Edmund, il est sur deux défaites consécutives. Et que Nassour, ben, il est en pleine bourre, même s'il a perdu le combat contre Phil Oz. Il y a deux combats. Mais, je pense que les gens se disent, ok, ces deux très jeunes dans la catégorie middleweight, qui sont même pas encore dans leur prime physique, et il y a encore quelques années avant qu'ils n'y soient, ils sont extrêmement techniques, extrêmement prometteurs dans tous les domaines. Et puis, bah, en plus pour Nassourdine, il y a ce côté, bah, au-delà du striking, mais comme il est dans le gym du MMA Factory, bah, on sait que c'est un fighter qui est extrêmement complet. Donc, enfin, je pense qu'effectivement, les Américains sont en train de commencer à se rendre compte que il y a peut-être là un des futurs très très gros prospects qui va jouer pourquoi pas le step up au niveau supplémentaire pour ce combat là quoi.
Ok, la hype est bien réelle, mais avant toute chose, vous savez, Road to 100 G's. C'est plus que jamais un petit pouce bleu, un petit abonnement. On va lancer le générique après cette superbe introduction, mon cher Rust.
Absolument, ah oui, c'est vrai. Swear.
Là, vous avez l'un des chocs middleweight de la soirée. Il y a un autre choc avec le début d'Alex Pereira. Enfin, c'est pas vraiment un choc, mais on va dire c'est plutôt l'attraction de la soirée avec les débuts d'Alex Pereira, ancien champion du Glory, champion double catégorie du Glory, qui fait ses débuts à l'UFC. Et le seul homme à avoir battu par KO Israel Adesanya.
Et alors moi, il y a un truc qui me fait peur avec tout ça, c'est que là, tu sais, la fameuse malédiction de quand tu parles du champion, quand tu parles des combats dans 2-3 combats, alors que t'es censé te concentrer sur le gars qui est devant toi, même s'il est pas connu, etc. Généralement, ça finit mal. Alors bon, bah peut-être qu'il va briser cette malédiction, mais elle est tellement réelle. Enfin, du coup, voilà, pour rester dans le rationnel, c'est pas une malédiction, c'est simplement que effectivement, je pense que il y a vraiment certains, il y a tout est mental dans ce game, et en fait je pense qu'il y a tous les exemples qu'on a eu en tête, que ce soit les Luke Rockhold, les Phil Davis, etc. Et il y en a eu des plus récents, je me souviens plus exactement lesquels, mais je sais que ça nous avait frappé aussi. Et quand tu te mets toi-même dans une position où tu te concentres pas à 100% sur le challenge qui est devant toi, mais que tu as déjà la tête ailleurs, en fait ça a vraiment une influence sur tes performances quoi. Et du coup je Voilà, il y a ce truc-là qui est en place, puisque Alex Pereira a donc dit, c'était quoi la punchline? C'était, moi je me soucie pas du champion, mais je pense que lui devrait commencer à se soucier de moi. Un truc comme ça, tu vois. Bon, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je l'ai vu dans les couloirs, il est énorme, mais énorme, Alex
Parce
Pereira.
qu'il est
Bon,
grand, ça c'est sûr, mais c'est-à-dire, tu veux dire large aussi?
ultra large. Honnêtement, du coup, on a. Enfin, j'ai entendu qu'il était qu'il cutait énormément. Alors après, c'est pas étonnant. Hein. Il a fait quand il était au Glory, il faisait middleweight et light heavyweight. Et même en light heavyweight, il n'était pas petit. Par exemple, dans son dernier combat contre Artem Tvaritov. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment, vraiment immense dans la vie de tous les jours. Il fait un très gros cut. Et pour l'avoir creusé dans les couloirs, c'est vrai que c'est un très, très gros middleweight. Donc, on verra ce que ça donne. On verra. Ça va être vraiment là le baptême du feu parce que ce sera son premier combat à l'UFC directement. Il avait eu quelques combats de MMA avant, mais c'était il y a un petit bout de temps, il me semble. Et c'était quand il était vraiment concentré sur sa carrière de kickboxing. Mais voilà, ça va être intéressant. Il est contre Andreas Michaelidis, qui est un bon combattant. Alors c'est pas évidemment, hein, c'est pas le top du top de la catégorie encore, mais c'est un bon combattant. Ça va être un bon test pour Pereira. C'est un gars en plus, Michaelidis, qui aime bien combattre debout. Alors peut-être qu'il adaptera son game plan cette fois-ci. Il est bon, évidemment, il adaptera probablement son game plan parce que t'es quand même face à un champion du Glory, double champion. Enfin, donc c'est peut-être pas le moment de faire le show en striking. Après. On sait jamais, hein. On a vu des Gokhan Saki versus comment dire Kale Rountree, etc. Donc Gokhan Saki qui était lui-même un champion de kickboxing et qui s'est fait mettre KO par un combattant de MMA. Donc tout peut arriver, mais on imagine quand même que Michaelidis essaiera de tester un petit peu en eau profonde en MMA Alex Pereira. Mais dans tous les cas, voilà, ça va être très très intéressant puisque donc comme tu l'as dit, c'est la grosse grosse trame narrative, c'est que il a mis KO Israel Adesanya, quoi.
Moi, personnellement, je pense que le plus dur, hein, véritablement, on avait déjà parlé pour Alex Pereira, ce sera le chemin jusqu'au titre, plus que le combat contre Israel Adesanya, parce que c'est vrai que chez Middleweight, il y a quelques clients. Mais en tout cas, faut déjà qu'il passe, qu'il réussisse avec succès son baptême. Mais quoi qu'il arrive, à mon avis, si, tu vois, il score un gros KO là, il est seulement à 3-1, je crois, en MMA, l'UFC fera tout pour le pousser très très vite vers le titre, parce que c'est vrai qu'Adesanya, là, il a Robert Whittaker, et ensuite, chez les middleweight, il y a plus grand monde, enfin plus grand monde en tout cas, on va dire pour le moment, tu vois, sportivement et en termes financiers, qui peut être très intéressant pour lui.
Ouais, parce que sportivement, il y aurait Bronson,
Ouais, c'est ça.
mais c'est
Qui
vrai que
affronte
c'est
Jared
pas
Cannonier prochainement.
absolument. Et ça, c'est vraiment cool. C'est trop cool qu'il fasse ce combat-là, quoi. Parce que moi, j'avais un petit peu peur que Bronson soit en mode, maintenant que c'est mon opportunité ou jamais, j'attendrai le combat pour le titre. C'est vraiment stylé qu'il fasse le combat contre Cannonier parce qu'on en saura plus sur lui. Il valide encore plus son ticket en tant que prochain contender. Donc c'est vrai que non, ça fait plaisir. Mais oui, effectivement, pour Pereira, vu que la catégorie. On va voir, hein, y a d'ici 6 mois, il y a le temps que ça s'améliore, parce que je pense que là, d'ici 6 mois, il y aura le combat contre Whittaker qui est en février, si je ne m'abuse. Après, peut-être si Bronson gagne le combat contre Bronson. Donc il y a encore, voilà, pour Pereira, effectivement, le temps de faire peut-être un, voire deux combats. Ça dépend de comment il s'en sort et à quelle vitesse il les finit, s'il les finit. Mais ouais, non, ça va être très intéressant. C'est cool d'avoir du sang frais et des nouveaux petites inconnues dans la catégorie, quoi.
Alright, et chez les bantamweight, le retour de Frankie Edgar face à la famille finalement pour ce monsieur Vera, monsieur Tito Vera.
Pourquoi la famille?
Ouais, je sais pas, tu l'adores dans ce combattant.
Ah oui, je le surkiffe, ouais. D'autant plus que bon, là pareil, hein, c'est juste que je le croise dans les couloirs et tout, mais il est tellement stylé. Là en plus, Marlon Vera, il a vraiment, tu sais, il a les cheveux avec un peu de laque, un tout petit peu long, plaqué vers l'arrière et avec sa petite, exactement comme la tienne, le combo moustache bouc. Il est tellement stylé, tellement stylé. Donc c'est moi, c'est pour ça que je le kiffe d'abord, pour sa personnalité et pour son style en dehors même de la cage, mais effectivement dans la cage, vous pouvez pas ne pas aimer un gars comme Tito Vera en fait, parce que c'est un gars extrêmement dur au mal, besogneux, mais aussi vraiment talentueux, vraiment, réellement talentueux. Et comment dire, il a été révélé lors de son choc contre Sean O'Malley, puisque donc Sean O'Malley était théoriquement le grand favori, et Chito Vera a réussi à finir Sean O'Malley. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un changement, et les gens ont découvert qui était Marlon Vera, et depuis, vraiment, c'est devenu un favori des fans, et les raisons sont voilà, sont là, quoi. C'est, il est trop cool, il est ultra performant en tant que combattant. Le combat contre Frankie Edgar, ça va être un vrai combat technique, parce que Frankie Edgar, on sait ce qu'il apporte, extrêmement complet, rapide, increvable, vétéran plus que tous les vétérans. Donc ça va être vraiment un combat intéressant pour Manvera, dur, mais ça va être un très beau combat de MMA, ça c'est sûr.
Mais trouve pas ça bizarre un peu le traitement que fait l'UFC de Vera, parce que il affronte Sean O'Malley en tant qu'un petit peu, tu vois, est-ce que Sean O'Malley est vraiment the real deal? Ensuite, il affronte José Aldo pour que l'UFC se dise, bon, est-ce que José Aldo fait toujours partie du gratin? Et là, on a Frankie Edgar qui a perdu contre Cory Sandhagen avec un genou sauté magnifique de Sandhagen, qui affronte Vera en mode aussi, est-ce qu'il appartient toujours au gratin? Ça qui est très bizarre, je trouve, dans la gestion de sa carrière de la part de l'UFC, c'est qu'on a plus l'impression qu'à chaque fois, il sert un peu de d'étalon or pour savoir où se situe l'adversaire que lui, avec une véritable volonté de le pousser.
Ouais, ben je pense que c'est peut-être lié. Alors je sais plus exactement quel âge il a. Je vais aller voir ça tout de suite. Mais je sais que c'est peut-être aussi parce que l'UFC se dit que ça n'est pas un prospect aussi flashy que bah par exemple les Sean O'Malley ou les gars comme ça. Ouais, pourtant il est encore très jeune, 28 ans. Mais je pense qu'effectivement peut-être que l'UFC ne voit pas en lui. Peut-être parce qu'il n'est pas américain, peut-être parce qu'il n'est pas anglais, je ne sais pas, parce qu'il est donc équatorien. Mais honnêtement, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'il a tout pourtant pour plaire théoriquement. Et comme on l'a dit, il est très stylé, il parle très bien. Honnêtement, il est très très bon vendeur. Quand il y a du trash talk, c'est jamais le dernier, mais c'est tout en restant respectueux. Donc c'est vraiment assez stylé. Il a tout pour plaire théoriquement. Il finit ses combats. C'est un vrai guerrier. Il lâche jamais rien. Et pourtant, effectivement, je suis d'accord. C'est vrai que l'UFC n'a pas l'air de vouloir spécialement le pousser. Après, peut-être qu'ils attendent genre la victoire qui sera ultra éclatante face à un gars super performant, parce que finalement on pourrait se dire aussi que sa victoire qu'il a vraiment propulsée, c'est celle contre Sean O'Malley. Mais sinon, à part ça, c'est vrai aussi qu'il a donc perdu contre José Aldo. C'était un bon combat, mais il a perdu très clairement, très très clairement. Il avait perdu avant ça contre Song Yadong. Et donc,
hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ces victoires, genre, je sais pas comment est-ce qu'on dit, mais ces victoires tampons, c'est pas encore des victoires contre des noms très éclatants. Donc, on peut aussi le voir à l'inverse, et on peut aussi le voir en tant que, en le mettant là contre Frankie Edgar, ils le remettent face à un très gros nom pour que peut-être, potentiellement, justement, ils battent ce gros nom et qu'on puisse relancer la machine, tu vois. On peut le voir dans ce sens-là aussi.
On peut le voir dans ce sens-là, Rusty. Et puis, là, c'est le podcast un peu ultime sur cette UFC 268 avec tous les enjeux. Vous avez déjà eu la preview de Chandler versus Gaethje, preview de Kamaru Usman contre Covington numéro 2. D'ailleurs, l'UFC a changé l'ordre des combats pour la main card avec en ouverture Gaethje Chandler pour permettre à Trevor Whitman de pas enchaîner en back-to-back-to-back avec Gaethje Chandler, puis Rosna Mayunas contre Wally Zhang 2, puis Kamaru Usman contre Covington. Tu veux dire quelque
Covington.
Chose?
Ouais, parce que pour vous dire à quel point c'est usant en fait pour les coachs et pour les cornerman de suivre un combattant, et donc effectivement c'est vraiment beau de la part de l'UFC. Pour le coup, c'est beau parce que ça n'a aucun autre intérêt. Donc là, honnêtement, même si on dit à chaque fois que l'UFC est une corporation, et c'est vrai, et que c'est un business, faut faire.
Ça a quand même pour intérêt, je trouve, tu vois, le combat de Frankie Edgar, et aussi je sais plus trop quel combat sur la main card, les gens le regarderont. Alors que sinon, ils auraient peut-être attendu, tu vois, les derniers moments pour acheter leur pay-per-view. Là, tu sais que directement à 3h du matin, t'as une dinguerie.
C'est vrai, c'est très bien vu. Bah, tu vois, je suis trop, trop, trop naïf. Mais en tout cas, tout ça alors, pour vous dire aussi, néanmoins, et ça par contre, je le sais, mais parce que ça, c'est du solide, parce que je l'ai entendu de vive voix, mais... c'est effectivement une très bonne nouvelle pour Trevor Whitman et pour sa santé, nerveuse, psychologique. Parce que c'est vrai que, en fait, pour vous dire à quel point c'est compliqué et c'est harassant, en fait, psychologiquement, de suivre quelqu'un dont tu es proche et quelqu'un qui est de ta team, etc., pendant un combat, Cyril Gann, lui-même, en gros, alors il discutait avec son frère il y a quelques jours, et en gros, son frère lui demandait, mais du coup, ouais, c'est là, tu vas être comment, ou c'était peut-être un gars de BT, enfin, je sais plus exactement dans quelle discussion c'était, mais en gros, qui lui demandait, mais du coup, ça va être stressant ou pas là pour toi de regarder Nassour Dine combattre? Et Cyril a répondu, ah mais beaucoup beaucoup plus que de combattre moi-même. Donc en fait, c'est vraiment pour vous dire à quel point c'est très compliqué nerveusement pour les gens qui entourent le combattant, parce que bah évidemment il y a ce côté tu ne maîtrises rien, il y a ce côté voilà tu t'es impuissant face à ce que tu regardes, même si ça se passe bien, tu vois, tu peux rien faire qu'être spectateur, même si tu peux donner des consignes, etc. Mais voilà, tout ça pour vous dire que si ça peut stresser Cyril Gann lorsqu'il regarde Nassour combattre, Nassour Dinimavov, bah, dites-vous bien que pour quelqu'un qui est l'entraîneur de 3 combattants qui combattraient les uns après les autres, ça doit être mais intenable psychologiquement. Donc c'est effectivement, c'est pas plus mal pour lui.
Est-ce que toi, ton analyse a évolué au fil de la semaine là, sur Chandler contre Gaethje?
Ben, en fait, puisque là on est dans le podcast où on a ouais un petit peu où voilà, c'est pas des insights forcément, mais où on voit effectivement ce qui a pu changer en fonction de ce qu'on a vu pendant la semaine et qui change donc des analyses pures, simples et dures, des pronostics, des analyses, etc. Alors personnellement pour Chandler Gaethje, moi maintenant je le sens beaucoup 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 plus clairement encore qu'avant pour Gaethje. J'ai vraiment une sensation là depuis que je vois les face-offs, depuis que je vois le comportement même dans les couloirs de l'un et de l'autre.
Qu'il en fait trop, Chandler.
Pas forcément qu'il en fait trop, mais voilà, pour couper court à tout ce qu'on pourra nous reprocher, je suis d'accord moi-même, c'est de l'impalpable. C'est pas du factuel, c'est pas du concret ce que je vais dire là. Mais j'ai vraiment une impression que Gaethje est confiant, mais une confiance extrême, mais qui est pas une confiance arrogante, qui est une confiance sereine. C'est très bizarre, c'est très étrange. Tandis que j'ai un petit peu plus l'impression que ce soit effectivement dans ce que je vois réellement dans les couloirs, ou même que je perçois même dans les conférences et trucs comme ça. J'ai un peu plus l'impression effectivement que Chandler est un petit peu moins dans son élément quand même que Gaethje, et ça peut avoir une influence. Ça peut avoir une influence. Gaethje, honnêtement, il m'a impressionné. Je sais pas, t'as l'impression que c'est le boss, quoi. T'as vraiment l'impression que c'est lui le boss dans son comportement, et c'est assez impressionnant. Donc ça peut ne pas se traduire le jour du combat, mais tu vois, si je devais mettre une petite pièce, parce que ça a quand même son importance, l'état d'esprit du combattant, bah je pense que je mettrais encore plus une petite pièce qu'avant sur Gaethje.
Alrighty, my good sir. On n'avait pas parlé de Weili Zhang contre Rose Namajunas.
C'est vrai. Ça va être un combat très compliqué quand même pour Rose. Alors, elle l'a déjà fait. Hein.
J'ai trop peur.
Ah ouais, mais moi aussi.
Parce que là, je pense que physiquement, Weili Zhang va arriver préparée comme jamais. Et tu vois, à mon avis, le premier round, elle va tout faire pour un peu, tu vois, pourrir le combat. Et à partir du deuxième, je pense qu'on va vraiment voir la différence. Et j'ai vraiment très peur, tu vois, que ça se termine en TKO pour Weili Zhang, troisième round.
C'est fort possible. En plus, c'est vrai que là, on sait que Weili Zhang, du coup, elle s'est entourée maintenant de des gars comme Cerrudo, Figueiredo. Enfin, c'est pas des petites additions quand même. Hein. C'est ce qui se fait de mieux au monde. Donc, que ce soit dans les domaines de striking, que ce soit dans les domaines de lutte particulièrement, quand on parle de Cerrudo. Alors même si à la base elle vient du Sanda, Weili Zhang, donc elle est pas étrangère, c'est pas comme si c'est une seconde nature déjà, les transitions et les projections pour Weili Zhang, mais il y a effectivement très fort à parier qu'elle a fait des changements, beaucoup de changements, et qui ont l'air d'être vraiment des changements judicieux, ou en tout cas qui auront énormément d'apport par rapport à cette revanche. Et bon, après, ce qui est bien aussi, c'est que à moins d'une grosse blessure ou à moins d'un énorme problème, ce qui est bien aussi pour Rose Namajunas, c'est que on sait ce qu'elle apporte, on sait avec qui elle s'entraîne, on sait ce qu'elle vaut, on sait qui elle est. Donc bon, il y aura pas de souci du point de vue de est-ce que ça ira pour Rose Namajunas, mais effectivement, c'est juste peut-être plus à quel point est-ce que Weili Zhang va arriver affûté, va arriver avec un angle différent du combat peut-être. Et ouais, ça peut vraiment faire mal. Il y a vraiment beaucoup d'inconnus. Hein. C'est comme avec Kobe Covington qui change de camp et qui change un petit peu tout radicalement. Il y a quand même des inconnus, même si elle garde une partie de son ancien staff Wei Lizhang. Mais ouais, je là en plus elle s'est coupée les cheveux. Enfin, tu sais, il y a un côté rédemption cinématographique, quoi. Donc à voir.
Ouais, le seul truc moi qui m'inquiète un petit peu, mais c'est vrai que comme tu l'as dit, les changements montrent qu'elle a dû se dire, enfin, puis que maintenant elle est complètement aux États-Unis, qu'il fallait peut-être changer certaines choses et peut-être qu'elle était tombée un petit peu trop amoureuse de son striking. Mais c'est vrai, tu vois, toutes ces déclarations en mode, bah le fait de se faire mettre KO, de se faire éteindre sur un coup en début de combat, c'est pas comme si je m'étais fait dominer de A à Z et donc pour moi ça veut pas dire forcément que c'est la meilleure combattante. Enfin, et on en avait parlé par le passé, toutes ces déclarations qui sont un peu bizarres, c'est peut-être juste ça que moi qui m'inquiète un tout petit peu de son côté. Même si de l'autre côté, comme j'ai expliqué, les actes montrent qu'elle a vraiment pris conscience de ce qui s'était passé et qu'il fallait faire quelques changements. Un truc à ajouter sur Kamaru Usman contre Colby Covington, Big Rusty. Ou that's it.
Pas spécialement. Là, pour le coup, ça ne change pas. Enfin, en tout cas, de ma perception des choses, ça ne change pas.
Et donc, parfait. Et oui, en tout cas, Kamaru Usman très serein dans les conférences de presse.
Ouais. Non, il y a un truc en revanche qu'on peut rajouter, je pense, là, vu qu'on est sur un petit peu les enjeux et ce qui peut se passer et qui il faut surveiller. Il y a un gars qui s'appelle Ian Garry qui va combattre là à l'UFC et qui est un très très jeune prospect en welterweight. Il a 23 ans et il va combattre Jordan Williams, qui est d'ailleurs un ancien adversaire de Nassourdine et qui a
le premier
qui est descendu
pour son baptême du feu à l'UFC.
Oui, absolument, voilà. Et d'ailleurs, dont Nassourdine avait, je crois, explosé l'orbital, le nez et les côtes, enfin, un truc monstrueux. Mais et donc, il est descendu en welterweight. Il va combattre ce gars-là qui s'appelle Ian, qui est un Irlandais, donc de 23 ans, et qui, là où c'est vraiment intéressant, si vous allez voir cette pastille de l'UFC qu'ils ont sorti il y a quelques jours, c'est juste du point de vue pour voir un petit peu le tableau global. Et enfin, c'est con, tu vois, ça fait professeur d'université pompeux ce que je vais dire, mais tu sais, genre la tectonique un petit peu des plaques du MMA. C'est que il a commencé le MMA et il s'est passionné pour le MMA après avoir vu le combat de Conor McGregor contre Diego Brandão. Et c'est vraiment intéressant pour moi, c'est même fascinant du point de vue de, c'est là où on voit l'impact que peut avoir une star, une personne sur tout un pays. Et quand on dit il peut impacter la jeunesse, il peut créer des vocations, bah c'est du réel, quoi. C'est du palpable. Donc Ian Garry est un produit de ça. Ian Garry, c'est un gars, il se cherchait un petit peu, il a vu et il a entendu parler de l'UFC, il a été voir le combat Brandão contre McGregor. Et ça a inspiré en lui une vocation, probablement comme beaucoup d'autres jeunes en Irlande à ce moment-là. Et c'est, pour moi, c'est vraiment impressionnant, quoi. C'est de se dire, on est déjà dans la phase où ce gars-là qui a 23 ans et donc qui en avait à cette époque-là peut-être, je sais pas combien de temps c'était, peut-être 18, peut-être 17, un truc comme ça. Sa vocation a été créée par cette vague-là. Nous, on y a tous assisté en tant que fans et on s'en souvient probablement tous autant qu'on est là devant notre ordinateur. Et ben à ce moment-là, ça a créé potentiellement une nouvelle vague de combattants irlandais dont fait partie Ian Garry. Et je trouve ça fascinant. Et donc voilà, il est très grand pour un welterweight. Il est à 7-0. Il est champion du Cage Warriors. Maintenant, il s'entraîne à Sanford MMA, donc avec grosse team avec Henry Hooft. Il est encore à polir sous beaucoup d'aspects, mais il a de grandes facilités. Il a évidemment encore beaucoup de, entre guillemets, de défauts, mais c'est tout à fait normal. Et il a un extrêmement bon timing. Il est complet. Il est comment dire, il a en plus, il a l'air d'avoir un très gros mental. Donc voilà, ça peut être aussi un combattant à suivre, Ian Garry, parce que potentiellement des grandes choses s'offrent à lui pour le futur. D'ailleurs, c'est son surnom, le futur.
Parfait, Mr. Big Rusty, vous le savez. Big Shana, my sweet pea, my sweet protein. Venom, sponsor de... My Protein, oui, je crois qu'on était à moins 52%. Surtout My Protein avec le code La Sueur. Et puis Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur. Let's go, Nassourdine Imavov pour ce soir. On est tous derrière lui, ça commence à 1h pour son combat et 3h pour la carte principale. Allez, bonne soirée, mon cher Ross, enfin, bonne journée, à la prochaine.
À la prochaine, salut à tous.
Oh wow. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez plus loin avec nous, vous tapez La Sueur
sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez la sphère et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.